Honoré de Balzac, splendeurs et misères des courtisanes. Deuxième partie, à combien l'amour revient au vieillard. Depuis 8 jours, Nucingen allait marchander la livraison de celle qu'il aimait, presque tous les jours, dans la boutique de la rue Neuve-Saint-Marc. Là, tantôt sous le nom de Saint-Estève, tantôt sous le nom de sa créature, Madame Nourrisson, trônait Asie, entre les plus belles parures, arrivé à cette phase horrible où les robes ne sont plus des robes et ne sont pas encore des haillons. Le cadre était en harmonie avec la figure que cette femme se composait, car ces boutiques sont une des plus sinistres particularités de Paris. On y voit des défroques que la mort y a jetées de sa main décharnée, et l'on entend alors le râle d'une phtisie sous un châle, comme on y devine l'agonie de la misère sous une robe lamée d'or. Les atroces débats entre le luxe et la faim sont écrits là sur de légères dentelles. On y retrouve la physionomie d'une reine sous un turban à plumes, dont la pose rappelle et rétablit presque la figure absente. C'est le hideux dans le joli. Le fouet de Juvénal, agité par les mains officielles du commissaire priseur, éparpille les manchons pelés, les fourrures flétries des filles aux abois. C'est un fumier de fleurs, où çà et là brillent des roses coupées d'hier, portées un jour, et sur lequel est toujours accroupie une vieille, la cousine germaine de l'usure, l'occasion chauve et dentée, et prête à vendre le contenu, tant elle a l'habitude d'acheter le contenant, la robe sans la femme, ou la femme sans la robe. Asie était là, comme l'argousin dans le bagne, comme un vautour, au bec rougi sur des cadavres, au sein de son élément. Plus affreuse que ces sauvages horreurs qui font frémir les passants étonnés, quelquefois de rencontrer un de leurs plus jeunes et frais souvenirs, pendu dans un sale vitrage, derrière lequel grimace une vraie Saint-Estève retirée. D'irritations en irritations, et de 10 000 en 10 000 francs, le banquier était arrivé à offrir 60 000 francs à Madame de Saint-Estève, qui lui répondit par un refus grimacé à désespérer un macaque. Après une nuit agitée, après avoir reconnu combien Esther portait de désordre dans ses idées, après avoir réalisé des gains inattendus à la bourse, il vint enfin un matin avec l'intention de lâcher les 100 000 francs demandés par Asie. Mais il voulait lui souterrer une foule de renseignements. « Tu te décides donc, mon gros farceur ?» lui dit Asie en lui tapant sur l'épaule. La familiarité la plus déshonorante est le premier impôt que ces sortes de femmes prélèvent sur les passions effrénées ou sur les misères qui se confient à elles. Elles ne s'élèvent jamais à la hauteur du client. Elles le font asseoir côte à côte auprès d'elles sur leur tas de boue. Asie, comme on le voit, obéissait admirablement à son maître. « Il le faut bien, » dit Nucingen. « Et tu n'es pas volé, » répondit Asie. « On a vendu des femmes plus chères que tu ne paieras celle-là, relativement. Il y a femmes et femmes. De Marsay a donné de feu Coralie 60 000 francs. Celle que tu veux a coûté 100 000 francs de première main. Mais pour toi, vois-tu, vieux corrompu, c'est une affaire de convenance. Mais où est d'elle ? Ah, tu la verras. Je suis comme toi, donnant, donnant. Ah ça, mon cher, ta passion a fait des folies. Ces jeunes filles, ça n'est pas raisonnable. La princesse est en ce moment ce que nous appelons une belle de nuit. Une belle. Allons, vas-tu, faire le jobard. Elle a louchard à ses trousses. Je lui ai prêté, moi, 50 000 francs. Fin de sainte, titon ! S'écria le banquier. « Parbleu, 25 pour 50, ça va sans dire, » répondit Asie. « Cette femme-là, faut lui rendre justice, c'est la probité même. Elle n'avait plus que sa personne. Elle m'a dit, « Ma petite madame Saint-Estève, je suis poursuivie. Il n'y a que vous qui puissiez m'obliger. Donnez-moi 20 000 francs, et je vous les hypothèque sur mon cœur. » Oh. Elle a un joli cœur. Il n'y a que moi qui sache où elle est. Une indiscrétion me coûterait mes 20 000 francs. Auparavant, elle demeurait rue Taitbout. Avant de s'en aller de là, son mobilier était saisi. Rapport aux frais, c'est gueux d'huissier. Vous savez, vous qui êtes un fort de la bourse. Eh bien, pas bête. Elle a loué pour 2 mois son appartement à une Anglaise. Une femme superbe qu'avait ce petit chose Rubempré pour amant. Et il en était si jaloux qu'il la faisait promener la nuit. Mais comme on va vendre le mobilier, l'Anglaise a déguerpi. D'autant plus qu'elle était trop chère pour un petit criquet comme Lucien. « Vous faites la panque !» dit Nucingen. « En nature, » dit Asie. « Je prête aux jolies femmes. Et ça rend, car on escompte 2 valeurs à la fois. » Asie s'amusait à charger le rôle de ces femmes qui sont bien âpres, mais plus patelines, plus douces que la malaise, et qui justifient leur commerce par des raisons pleines de beaux motifs. Asie se posa comme ayant perdu ses illusions, 5 amants, ses enfants, et se laissant voler par tout le monde, malgré son expérience. Elle montra de temps en temps des reconnaissances du monde de piété, pour prouver combien son commerce comportait de mauvaises chances. Elle se donna pour gênée, endettée. Enfin, elle fut si naïvement hideuse que le baron finit par croire au personnage qu'elle représentait. « Eh bien, si je lâche les 100 000, où la ferai-je » disait-il, en faisant le geste d'un homme décidé à tous les sacrifices. « Mon gros père, tu viendras ce soir avec ta voiture, par exemple, en face le gymnase. »« C'est le chemin, » dit Asie. « Tu t'arrêteras au coin de la rue Sainte-Barbe. Je serai là en vedette. Nous irons trouver mon hypothèque à cheveux noirs. »« Oh, elle a de beaux cheveux, mon hypothèque. » En ôtant son peigne, Esther se trouve à couvert comme sous un pavillon. Mais si tu te connais aux chiffres, tu m'as l'air assez jobard sur le reste. Je te conseille de bien cacher la petite, car on te la fourre à Sainte-Pélagie, et vivement, le lendemain, si on la trouve, et on la cherche. Ne bourrez du boin racheter les billets, dit l'incorrigible Loup-Cervier. L'huissier les a, mais il n'y a pas mèche. L'enfant a évu une passion et a mangé un dépôt qu'on lui redemande. Ah, dame, c'est un peu farceur, un cœur de 22 ans. Bon, j'arrangerai ça, dit Nucingen en prenant son air finaud. Il est bien entendu que je serai son protecteur. Grosse bête, c'est ton affaire de te faire aimer par elle. Et tu as bien assez de moyens pour acheter un semblant d'amour qui vaille le vrai. Je te remets ta princesse entre les mains. Elle est tenue de te suivre. Je ne m'inquiète point du reste. Mais elle est habituée au luxe, aux plus grands égards. Ah, mon petit, c'est une femme comme il faut. Sans cela, lui aurais-je donné 15 000 francs. Eh bien, c'est dit. À ce soir. Le baron recommença la toilette nuptiale qu'il avait déjà faite. Mais cette fois, la certitude du succès lui fit doubler la dose de pilule. À 9 heures, il trouva l'horrible femme au rendez-vous et la prit dans sa voiture. « Où ?» dit le baron. « Où ?» fit Asie. « Rue de la Perle, au Marais. Une adresse de circonstance, car ta perle est dans la boue, mais tu la laveras. » Arrivée là, la fausse madame de Saint-Estève dit à Nucingen avec un affreux sourire. Nous allons faire quelques pas à pied. Je ne suis pas assez sotte pour avoir donné la véritable adresse. Tu penses à toutes, répondit Nucingen. C'est mon état, répliqua-t-elle. Ainsi conduisit Nucingen rue Barbette, où dans une maison garnie tenue par un tapissier du quartier, il fut introduit au 4e étage. En apercevant, dans une chambre mesquinement meublée, Esther, mise en ouvrière, et travaillant à un ouvrage de broderie, le millionnaire pâlit. Au bout d'un quart d'heure, pendant lequel Asie eut l'air de chuchoter avec Esther, à peine ce jeune vieillard pouvait-il parler. « Monte-moi celle, » dit-il enfin à la pauvre fille. « Aurez-vous la bonté de m'accepter comme votre protecteur ? Mais il le faut bien, monsieur, dit Esther, dont les deux yeux laissèrent échapper deux grosses larmes. Ne pleurez point, je veux vous rendre la plus heureuse de toutes les femmes. Laissez-vous seulement aimer par moi. Vous verrez. Ma petite, monsieur est raisonnable, dit Asie. Il sait bien qu'il a 66 ans passés, et il sera bien indulgent. Enfin, mon bel ange, c'est un père que je t'ai trouvé. Faut lui dire ça, dit Asie à l'oreille du banquier mécontent. On ne prend pas des hirondelles en leur tirant des coups de pistolet. Venez par ici, dit Asie, en emmenant Nucingen dans la pièce voisine. Vous savez nos petites conventions, mon ange. Nucingen tira de la poche de son habit un portefeuille et compta les 100 000 francs que Carlos, caché dans un cabinet, attendait avec une vive impatience et que la cuisinière lui porta. Voilà 100 000 francs que notre homme place en Asie. Maintenant, nous allons lui en faire placer en Europe, dit Carlos à sa confidente quand ils furent sur le palier. Il disparut après avoir donné ses instructions à la malaise, qui rentra dans l'appartement où Esther pleurait à chaudes larmes. L'enfant, comme un criminel condamné à mort, s'était fait un roman d'espérance, et l'heure fatale avait sonné. « Mes chers enfants, dit Asie, où allez-vous aller ? Car le baron de Nucingen... » Esther regarda le banquier célèbre en laissant échapper un geste d'étonnement admirablement joué. « Oui, mon enfant, je suis le baron de Nucingen. » Le baron de Nucingen ne doit pas, ne peut pas rester dans un chenil pareil. Écoutez-moi, votre ancienne femme de chambre Eugénie... « Eugénie, de la rue d'Époux !» s'écria le baron. « Eh bien oui, la gardienne judiciaire des meubles, reprit Asie, et qui a loué l'appartement à la belle anglaise. « Ah, je comprends, dit le baron. L'ancienne femme de chambre de madame, reprit respectueusement Asie en désignant Esther, vous recevra très bien ce soir, et jamais le garde du commerce ne s'avisera de la venir chercher dans son ancien appartement, qu'elle a quitté depuis 3 mois. « Barvet, Barvet !» s'écria le baron. « D'ailleurs, je connais les cartes du commerce, et je sais les paroles pour les faire disparaître. » « Vous aurez dans Eugénie une fine mouche, » dit Asie. « C'est moi qui l'ai donnée à madame. »« Je la connais !» s'écria le millionnaire en riant. « Eugénie m'a jipé 30 000 francs !» Esther fit un geste d'horreur, sur la foi duquel un homme de cœur lui confiait sa fortune. « Oh, par ma faute !» reprit le baron. « Je gourrais après vous !» Et il raconta le quiproquo auquel avait donné lieu la location de l'appartement à une Anglaise. « Eh bien, voyez-vous, madame, dit Asie, Eugénie ne vous a rien dit de cela, la rusée. Mais madame est bien habituée à cette fille-là, dit-elle au baron. Gardez-la tout de même. » Asie reprit Nucingen à part et lui dit « Avec 500 francs par mois à Eugénie, qui arrondit joliment sa pelote, vous saurez tout ce que fera madame. Donnez-la lui pour femme de chambre. Eugénie sera d'autant mieux à vous qu'elle vous a déjà carotté. Rien n'attache plus les femmes à un homme que de le carotter. Mais tenez Eugénie en bride. Elle fait tout pour de l'argent, cette fille-là. C'est une horreur. Et toi ?» « Moi, fit Asie, je me rembourse. » Nucingen, cet homme si profond, avait un bandeau sur les yeux. Il se laissa faire comme un enfant. La vue de cette candide et adorable Esther, essuyant ses yeux, étirant avec la décence d'une jeune vierge les points de sa broderie, rendait à ce vieillard amoureux les sensations qu'il avait éprouvées au bois de Vincennes. Il eût donné la clé de sa caisse. Il se sentait jeune, il avait le cœur plein d'admiration. Il attendait, quasi fût parti, pour pouvoir se mettre aux genoux de cette madone de Raphaël. Cette éclosion subite de l'enfance, au cœur d'un loup cervier, d'un vieillard, est un des phénomènes sociaux que la physiologie peut le plus facilement expliquer. Comprimé sous le poids des affaires, étouffé par de continuels calculs, par les préoccupations perpétuelles de la chasse aux millions, L'adolescence et ses sublimes illusions reparées s'élance et fleurit comme une cause, comme une graine oubliée dont les effets, dont les floraisons splendides obéissent au hasard à un soleil qui jaillit, qui luit tardivement. Commise à 12 ans dans la vieille maison d'Aldriguer de Strasbourg, le baron n'avait jamais mis le pied dans le monde des sentiments. Aussi restait-il devant son idole en entendant 1000 phrases qui se heurtaient dans sa cervelle et n'en trouvant aucune sur ses lèvres. Il obéit alors à un désir brutal où l'homme de 66 ans reparaissait. « Voulez-vous venir rue des Boues ? » dit-il. « Où vous voudrez, monsieur ?» répondit Esther en se levant. « Où vous voudrez ? » répéta-t-il avec ravissement. « Vous êtes un ange descendu du ciel, et que j'aime, comme si j'étais un petit jeune, bien quoique j'aie mes cheveux gris. Ah, vous pouvez bien dire blanc, car ils sont d'un trop beau noir pour n'être que gris, » dit Assis. « Va-t'en, vilaine fanteuse de chair humaine, tu as ton argent, ne bave plus sur cette fleur d'amour !» s'écria le banquier, en se remboursant par cette sauvage apostrophe de toutes les insolences qu'il avait supportées. « Vieux polisson, tu me paieras cette phrase-là » lui fit Asie, en menaçant le banquier par un geste digne de la halle qui lui fit hausser les épaules. Entre la gueule du pot et celle d'un licheur, il y a la place d'une vipère, et tu m'y trouveras, dit-elle excitée par le dédain de Nucingen. Les millionnaires, dont l'argent est gardé par la Banque de France, dont les hôtels sont gardés par une escouade de valets, dont la personne a dans la rue le rempart d'une rapide voiture à chevaux anglais, ne craignent aucun malheur. Aussi, le baron lorgna-t-il froidement Asie, un homme qui venait de lui donner 100 000 francs. Cette majesté produisit son effet. Asie exécuta sa retraite en grommelant dans l'escalier, et tenant un langage excessivement révolutionnaire. Elle parlait d'échafaud. « Que lui avez-vous donc fait ?» demanda la Vierge à la broderie. « Car elle est bonne femme. Elle vous a fenti. Elle vous a folé. » « Quand nous sommes dans la misère, » répondit-elle, d'un air à fendre le cœur d'un diplomate, « qui donc a de l'argent et des égards pour nous ?»« Pauvre petite, » dit Nucingen. Ne restez pas une minute de plus ici. » Nucingen donna le bras à Esther. Il l'emmena comme elle se trouvait et la mit dans sa voiture avec plus de respect peut-être qu'il n'en aurait eu pour la belle duchesse de Maufrigneuse. « Vous aurez un bel équipage, le plus joli de Paris, » disait Nucingen pendant le chemin. « Tout ce que le luxe a de plus charmant vous endourera. Une reine ne sera pas plus riche que vous. Vous serez respectée comme une fiancée d'Allemagne. Je vous fais libre. Ne pleurez point. Écoutez, je vous aime véritablement, d'amour pur. Chacune de vos larmes me prise le cœur. » Aime-t-on d'amour une femme qu'on achète ? Demanda d'une voix délicieuse la pauvre fille. Joseph a bien été fendu par ses frères à cause de sa chantillesse. C'est dans la pipe. D'ailleurs, dans l'Orient, on achète ces femmes légitimes. Arrivée rue Thébout, Esther ne put revoir sans des impressions douloureuses le théâtre de son bonheur. Elle resta sur un divan, immobile, étanchant ses larmes une à une, sans entendre un mot des folies que lui baragouinait le banquier. Il se mit à ses genoux. Elle l'y laissa sans rien lui dire, lui abandonnant ses mains quand il les prenait, mais ignorant, pour ainsi dire, de quel sexe était la créature qui lui réchauffait les pieds, que Nucingen trouva froid. Cette scène, de larmes brûlantes semées sur la tête du baron, et de pieds à la glace réchauffés par lui, dura de minuit à 2 heures du matin. « Icheny !» dit enfin le baron en appelant Europe. « Obtenez donc de votre maîtresse qu'elle se gouche. » « Non !» s'écria Esther, en se dressant sur ses jambes comme un cheval effarouché. « Jamais ici !»« Tenez, monsieur, Je connais madame. Elle est douce et bonne comme un agneau, dit Europe au banquier. Seulement, il ne faut pas la heurter. Il faut toujours la prendre de biais. Elle a été si malheureuse ici. Voyez, le mobilier est bien usé. Laissez-lui suivre ses idées. Arrangez-lui là, bien gentiment, quelque joli hôtel. Peut-être en voyant tout nouveau autour d'elle, elle sera dépaysée. Elle vous trouvera peut-être mieux que vous n'êtes, et sera d'une douceur angélique. Oh, madame n'a pas sa pareille, et vous pouvez vous vanter d'avoir fait une excellente acquisition. Un bon cœur, des manières gentilles, un coup de pied fin, une peau ou une rose. Ah, et de l'esprit à faire rire des condamnés à mort. Madame est susceptible d'attache, et comme elle sait s'habiller. Eh bien, si c'est cher, un homme en a, comme on dit, pour son argent. Ici, toutes ses robes sont saisies. Sa toilette est donc arriérée de 3 mois. Mais madame est si bonne, voyez-vous, que moi je l'aime, et c'est ma maîtresse. Mais soyez juste, une femme comme elle, se voir au milieu de meubles saisis. Et pour qui? Pour un garnement qu'il a roué. Pauvre petite femme, elle n'est plus elle-même. Esther, Esther, disait le baron, couchez-vous, mon ange. Et si c'est moi qui vous fais peur, je resterai sur ce canapé, s'écria le baron, enflammé par l'amour le plus pur, en voyant qu'Esther pleurait toujours. Eh bien, répondit Esther en prenant la main du baron et la lui baisant, avec un sentiment de reconnaissance qui fit venir aux yeux de ce loup cervier quelque chose d'assez ressemblant à une larme. Je vous en saurai gré. Et elle se sauva dans sa chambre en s'y enfermant. Il y a quelque chose d'inexplicable là-dedans, se disait Nucingen, agité par ses pilules. Que dira-t-on chez moi? Il se leva, regarda par la fenêtre. Ma voiture est toujours là. Voici bientôt le jour. Il se promena par la chambre. Comme madame de Nucingen se moquerait de moi. Si jamais elle savait comment j'ai passé cette nuit. Il alla coller son oreille à la porte de la chambre, en se trouvant un peu trop niaisement couché. Esther! Aucune réponse. Mon Dieu, elle pleure toujours, se dit-il, en revenant s'étendre sur le canapé. 10 minutes environ après le lever du soleil, le baron de Nucingen, qui s'était endormi de ce mauvais sommeil pris par force et dans une position gênée, sur un divan, fut éveillé en sursaut par Europe au milieu d'un de ces rêves qu'on fait alors et dont les rapides complications sont un des phénomènes insolubles de la physiologie médicale. « Ah, mon Dieu! Madame! » criait-elle. « Madame! Des soldats, des gendarmes, la justice! On veut vous arrêter !» Au moment où Esther ouvrit sa porte et se montra, mal enveloppée de sa robe de chambre, les pieds nus dans ses pantoufles, ses cheveux en désordre, belle, à faire damner l'ange Raphaël, la porte du salon vomit un flot de boue humaine qui roula sur 10 pattes vers cette céleste fille, posée comme un ange dans un tableau de religion flamand. Un homme s'avança. Contenson, l'affreux Contenson, mit sa main sur l'épaule moite d'Esther. « Vous êtes mademoiselle Esther Van, » dit-il. Europe, d'un revers appliqué sur la joue de Contenson, l'envoya d'autant mieux mesurer ce qu'il lui fallait de tapis pour se coucher, qu'elle lui donna dans les jambes ce coup sec, si connu de ceux qui pratiquent l'ardi de la savate. « Arrière ! » cria-t-elle. « On ne touche pas à ma maîtresse. »« Elle m'a cassé la jambe !» criait Contenson en se relevant. « On me la paiera !» Sur la masse des 5 recors, vêtus comme des recors, gardant leurs chapeaux affreux sur leurs têtes, plus affreuses encore, et offrant des têtes de bois d'acajou veinées, ou les yeux louchés, ou quelques nez manqués, ou les bouches grimacées, se détacha Louchard, vêtu plus proprement que ses hommes, mais le chapeau sur la tête, la figure à la fois doucereuse et rieuse. « Mademoiselle, je vous arrête, » dit-il à Esther. Quant à vous, ma fille, dit-il à Europe, toute rébellion serait punie et toute résistance est inutile. Le bruit des fusils, dont les crosses tombèrent sur les dalles de la salle à manger et de l'antichambre, en annonçant que le garde était doublé de la garde, appuya ce discours. Et pourquoi m'arrêter? Dit innocemment Esther. Et nos petites dettes? Répondit Louchard. Ah, c'est vrai, s'écria Esther. Laissez-moi m'habiller. Malheureusement, mademoiselle, il faut que je m'assure si vous n'avez aucun moyen d'évasion dans votre chambre, dit Louchard. Tout cela se fit si rapidement que le baron n'avait pas encore eu le temps d'intervenir. Bien, je suis à cette heure une fanteuse de chair humaine, baron de Nucingen, s'écria la terrible Asie, en se glissant à travers les recors jusqu'au divan où elle feignit de découvrir le banquier. Filaine trollesse! S'écria Nucingen, qui se dressa dans toute sa majesté financière. Et il se jeta entre Esther et Louchard, qui lui ôta son chapeau à un cri de Contenson. Monsieur le baron de Nucingen! Au geste que fit Louchard, les recors évacuèrent l'appartement en se découvrant tous avec respect. Contenson seul resta. Monsieur le baron paye-t-il? Demanda le garde, qui avait son chapeau à la main. « Je paye, répondit-il, mais encore, faut-il savoir de quoi il s'agit. 312 000 francs et des centimes, frais liquidés, mais l'arrestation n'est pas comprise. 300 000 francs, s'écria le baron, c'est un tréfail trop cher pour un homme qui a passé la nuit sur un canapé, ajouta-t-il à l'oreille d'Europe. Cet homme est-il bien le baron de Nucingen ? Dit Europe à Louchard, en commentant son doute par un geste que mademoiselle Dupont, la dernière soubrette du théâtre français, eût envié. « Oui, mademoiselle, dit Louchard. « Oui, répondit Contenson. « Je réponds-elle, dit le baron, que le doute d'Europe piqua d'honneur. « Laissez-moi lui dire un mot. » Esther et son vieil amoureux entrèrent dans la chambre, à la serrure de laquelle Louchard trouva nécessaire d'appliquer son oreille. Je vous aime plus que ma fille, Esther. Mais pourquoi donner à vos créanciers de l'argent qui serait infiniment mieux à votre bourse? Allez en prison. Je me fais fort de racheter ces 100 000 écus avec 100 000 francs, et vous aurez 200 000 francs pour vous. Ce système, lui cria Louchard, est inutile. Le créancier n'est pas amoureux de mademoiselle, lui. Vous comprenez? Et il veut plus que tout, depuis qu'il sait que vous êtes épris d'elle. Foutu péda! S'écria Nucingen à Louchard, en ouvrant la porte et l'introduisant dans la chambre. Tu ne sais ce que tu dis. Je te donne, à toi, 20% si tu fais l'affaire. Impossible, monsieur le baron. Comment, monsieur? Vous auriez le cœur, dit Europe en intervenant, de laisser aller ma maîtresse en prison. Mais voulez-vous mes gages, mes économies? Prenez-les, madame, j'ai 40 000 francs. Ah, ma pauvre fille, je ne te connaissais pas, dit Esther en serrant Europe dans ses bras. Europe se mit à fondre en larmes. Je baille, dit piteusement le baron, en tirant un carnet où il prit un de ses petits carrés de papier imprimé que la banque donne aux banquiers, et sur lesquels ils n'ont plus qu'à remplir les sommes en chiffres et en toutes lettres pour en faire des mandats payables aux porteurs. « Ce n'est pas la peine, monsieur le baron, dit Louchard. J'ai ordre de ne recevoir mon paiement qu'en espèces d'or ou d'argent. À cause de vous, je me contenterai de billets de banque. « Tartuffe ! S'écria le baron. « Montrez-moi donc les titres. » Contenson présenta trois dossiers couverts en papier bleu que le baron prit en regardant Contenson, auquel il dit à l'oreille « Tu aurais fait une meilleure journée en m'avertissant. » « Et vous savez-je ici, monsieur le baron ?» répondit l'espion, sans se soucier d'être ou non entendu de Louchard. « Vous avez bien perdu en ne me continuant pas votre confiance. On vous carotte. ajouta ce profond philosophe en haussant les épaules. « C'est frais, » dit le baron. « Ah, ma petite !» s'écria-t-il en voyant les lettres de change et en s'adressant à Esther. « Vous êtes la victime d'un fameux coquin, un escroc !»« Hélas, oui !» dit la pauvre Esther. « Mais il m'aimait bien. Si j'avais su, j'aurais fait une opposition entre vos mains. « Vous perdez la tête, monsieur le baron, » dit Louchard. « Il y a un tiers porteur. »« Oui, » reprit-il, « il y a un tiers porteur, Zérizé, un homme d'opposition. »« Il a le malheur spirituel, » dit en souriant Contenson. « Il fait un calembour. »« Monsieur le baron veut-il écrire un mot à son caissier ?» dit Louchard en souriant. « Je vais y envoyer Contenson et renverrai mon monde. » L'heure s'avance et tout le monde saurait. « Fa, Contenson !» cria Nucingen. « Mon caissier demeure au coin de la rue des Madurins et de l'Argate. Voici un mot. Afin qu'il aille, j'ai dictylé, ou j'ai les Keller, dans le gars où nous n'aurions pas 100 000 écus, car notre argent a dû à la banque. « Apilez-vous, mon ange, » dit-il à Esther. « Vous êtes libre. » Les vieilles femmes, s'écria-t-il en regardant Asie, sont plus tanchereuses que les jeunes. Je vais aller faire rire le créancier, lui dit Asie, et il me donnera de quoi m'amuser aujourd'hui. Sans rancune, monsieur le baron, ajouta la sainte Estève, en faisant une horrible révérence. Louchard reprit les titres des mains du baron, et resta seul avec lui au salon, où une demi-heure après, le caissier vint suivi de Contenson. Esther reparut alors dans une toilette ravissante, quoique improvisée. Quand les fonds eurent été comptés par Louchard, le baron voulut examiner les titres. Mais Esther s'en saisit par un geste de chatte et les porta dans son secrétaire. « Que donnez-vous pour la canaille ?» dit Contenson à Nucingen. « Vous n'avez pas su beaucoup d'écart, » dit le baron. « Et ma jambe ?» s'écria Contenson. « Louchard, vous donnerez 100 francs à Contenson sur le reste du billet de bille. »« C'est une bien belle femme, » disait le caissier au baron de Nucingen en sortant de la rue Thébou. « Mais elle goûte bien cher à monsieur le baron. »« Gardez-moi le secret, » dit le baron, qui avait aussi demandé le secret à Contenson et à Louchard. Louchard s'en alla suivi de Contenson. Mais sur le boulevard, Asie, qui le guettait, arrêta le garde du commerce. L'huissier et le créancier sont là, dans un fiacre. Ils ont soif, lui dit-elle. Et il y a gros. Pendant que Louchard comptait les fonds, Contenson put examiner les clients. Il aperçut les yeux de Carlos, distingua la forme du front sous la perruque, et cette perruque lui sembla justement suspecte. Il prit le numéro du fiacre, tout en paraissant totalement étranger à ce qui se passait. Asie et Europe l'intriguaient au dernier point. Ils pensaient que le baron était victime de gens excessivement habiles, avec d'autant plus de raison que Louchard, en réclamant ses soins, avait été d'une discrétion étrange. Le croc en jambe d'Europe n'avait pas d'ailleurs frappé Contenson seulement au tibia. C'est un coup qui sent son Saint-Lazare, s'était-il dit en se relevant. Carlos renvoya l'huissier, le paya généreusement, et dit au fiacre en le payant, « Palais Royal, au perron !»« Ah, le matin !» se dit Contenson qui entendit l'ordre. « Il y a quelque chose !» Carlos arriva au Palais Royal d'un train à ne pas avoir à craindre d'être suivi. D'ailleurs, il traversa les galeries à sa manière, prit un autre fiacre sur la place du château d'eau, en lui disant « Passage de l'Opéra, du côté de la rue Pinon. » Un quart d'heure après, il entrait rue Thébou. En le voyant, Esther lui dit « Voilà les fatales pièces. » Carlos prit les titres, les examina, puis il alla les brûler au feu de la cuisine. « Le tour est fait, » s'écria-t-il en montrant les 310 000 francs roulés en un paquet qu'il tira de la poche de sa redingote. « Ça, et les 100 000 francs passés par Asie nous permettent d'agir. Mon Dieu, mon Dieu ! S'écria la pauvre Esther. Mes imbéciles ! Dit le féroce calculateur. Sois ostensiblement la maîtresse de Nucingen, et tu pourras voir Lucien. Il est l'ami de Nucingen. Je ne te défends pas d'avoir une passion pour lui. Esther aperçut une faible clarté dans sa vie ténébreuse. Elle respira. Europe, ma fille, dit Carlos, en emmenant cette créature dans un coin du boudoir, où personne ne pouvait surprendre un mot de cette conversation. Europe, je suis content de toi. Europe releva la tête, regarda cet homme avec une expression qui changea tellement son visage flétri que le témoin de cette scène, Asie, qui veillait à la porte, se demanda si l'intérêt par lequel Carlos tenait Europe pouvait surpasser en profondeur celui par lequel elle se sentait rivée à lui. Ce n'est pas tout, ma fille. 400 000 francs ne sont rien pour moi. Paccard te remettra une facture d'argenterie qui monte à 30 000 francs et sur laquelle il y a des acomptes reçus. Mais notre orfèvre, Bidin, a fait des frais. Notre mobilier saisi par lui sera sans doute affiché demain. Va voir Bidin. Il demeure rue de l'Arbre Sec. Il te donnera des reconnaissances du Mont-de-Piété pour 10 000 francs. Tu comprends. Esther s'est fait faire de l'argenterie. Elle ne l'a pas payée et elle l'a mise en plan. Elle sera donc menacée d'une petite plainte en escroquerie. Donc, il faudra donner 30 000 francs à l'orfèvre et 10 000 francs au Mont-de-Piété pour avoir l'argenterie. Total, 43 000 francs avec les frais. Cette argenterie est pleine d'alliages. Le baron la renouvellera. Nous lui rechipperons là quelques billets de 1 000 francs. Vous devez... Quoi ? Pour 2 ans à la couturière. On peut lui devoir 6 000 francs, répondit Europe. Eh bien, si Madame Auguste veut être payée et conserver la pratique, elle devra faire un mémoire de 30 000 francs depuis 4 ans. Même accord avec la marchande de mode. Le bijoutier, Samuel Frisch, le juif de la rue Saint-Avoy, te prêtera des reconnaissances. Nous devons lui devoir 25 000 francs. Et nous aurons eu 6 000 francs de nos bijoux au Mont-de-Piété. Nous rendrons les bijoux au bijoutier. Il y aura moitié pierre fausse. Aussi, le baron ne les regardera-t-il pas. Enfin, tu feras cracher encore 150 000 francs à notre ponte d'ici à 8 jours. Madame devra m'aider un peu, répondit Europe. Parlez-lui, car elle reste là comme une hébétée et m'oblige à déployer plus d'esprit que 3 auteurs pour une pièce. Si Esther tombait dans le bégolisme, tu m'en préviendrais, dit Carlos. Nucingen lui doit un équipage et des chevaux. Elle voudra choisir et acheter tout elle-même. Ce sera le marchand de chevaux et le carrossier du loueur ou épacard que vous choisirez. Nous aurons là d'admirables chevaux, très chers, qui boiteront un mois après et nous les changerons. On pourrait tirer 6 000 francs au moyen d'un mémoire de parfumeur. Oh, fit-il en hochant la tête. Allez doucement, de concessions en concessions. Nucingen n'a passé que le bras dans la machine. Il nous faut la tête. J'ai besoin, outre tout cela, de 500 000 francs. Vous pourrez les avoir, répondit Europe. Madame s'adoucirait pour ce gros imbécile vers 600 000 et lui en demanderait 400. Pour le bien-aimé. Écoute ceci, ma fille, dit Carlos. Le jour où je toucherai les derniers 100 000 francs, il y aura pour toi 20 000 francs. À quoi cela peut-il me servir ? Dit Europe, en laissant aller ses bras, en personne à qui l'existence semble impossible. Tu pourras retourner à Valenciennes, acheter un bel établissement, et devenir honnête femme, si tu veux. Tous les goûts sont dans la nature. Paccard y pense quelquefois. Il n'a rien sur l'épaule, presque rien sur la conscience. Vous pourrez vous convenir, répliqua Carlos. Retourner à Valenciennes, y pensez-vous, monsieur ? S'écria Europe effrayée. Née à Valenciennes, et fille de tisserand très pauvre, Europe fut envoyée à 7 ans dans une filature où l'industrie moderne avait abusé de ses forces physiques, de même que le vice l'avait dépravé avant le temps. Corrompue à 12 ans, mère à 13 ans, elle se vit attachée à des êtres profondément dégradés. À propos d'un assassinat, elle avait comparu comme témoin d'ailleurs devant la cour d'assises. Vaincue à 16 ans par un reste de probité, par la terreur que cause la justice, elle fit condamner l'accusé par son témoignage à 20 ans de travaux forcés. Ce criminel, un de ces repris de justice dont l'organisation implique de terribles vengeances, avait dit en pleine audience à cet enfant: « Dans 10 ans, comme à présent, Prudence, Europe s'appelait Prudence Servian, je reviendrai pour te terrer, dussé-je être fauché. » Le président de la cour essaya bien de rassurer Prudence Servien en lui promettant l'appui, l'intérêt de la justice. Mais la pauvre enfant fut frappée d'une si profonde terreur qu'elle tomba malade et resta près d'un an à l'hôpital. La justice est un être de raison représenté par une collection d'individus sans cesse renouvelés, dont les bonnes intentions et les souvenirs sont, comme eux, excessivement ambulatoires. Les parquets, les tribunaux ne peuvent rien prévenir en fait de crime. Ils sont inventés pour les accepter tout fait. Sous ce rapport, une police préventive serait un bienfait pour un pays. Mais le mot « police » effraie aujourd'hui le législateur, qui ne sait plus distinguer entre ces mots « gouverner »,« administrer »,« faire les lois ». Le législateur tente à tout absorber dans l'État, comme s'il pouvait agir. Le forçat devait toujours penser à sa victime et se venger alors que la justice ne songerait plus ni à l'un ni à l'autre. Prudence, qui comprit instinctivement, en gros si vous voulez, son danger, quitta Valenciennes et vint à 17 ans à Paris pour s'y cacher. Elle y fit 4 métiers, dont le meilleur fut celui de comparse à un petit théâtre. Elle fut rencontrée par Paccard, à qui elle raconta ses malheurs. Paccard, le bras droit, le séide de Jacques Collin, parla de Prudence à son maître. Et quand le maître eut besoin d'une esclave, il dit à Prudence: « Si tu veux me servir comme on doit servir le diable, je te débarrasserai de Duru. » Duru était le forçat, l'épée de Damoclès, suspendue au-dessus de la tête de Prudence Servien. Sans ces détails, beaucoup de critiques auraient trouvé l'attachement d'Europe un peu fantastique. Enfin, personne n'aurait compris le coup de théâtre que Carlos allait produire. Oui, ma fille, tu pourras retourner à Valenciennes. Tiens, lis. Et il tendit le journal de la veille en montrant du doigt l'article suivant. Toulon. Hier a eu lieu l'exécution de Jean-François Duru. Dès le matin, la garnison, etc. Prudence lâcha le journal. Ses jambes se dérobèrent sous le poids de son corps. Elle retrouvait la vie, car elle n'avait pas, disait-elle, trouvé de goût au pain depuis la menace de Duru. Tu le vois, j'ai tenu ma parole. Il a fallu 4 ans pour faire tomber la tête de Duru en la tirant dans un piège. Eh bien, achève ici mon ouvrage. Tu te trouveras à la tête d'un petit commerce dans ton pays, riche de 20 000 francs, et la femme de Paccard, à qui je permets la vertu comme retraite. » Europe reprit le journal et lut avec des yeux vivants tous les détails que les journaux donnent, sans se lasser, sur l'exécution des forçats depuis 20 ans. Le spectacle imposant, l'aumônier qui a toujours converti le patient, le vieux criminel qui exhorte ses ex-collègues, l'artillerie braquée, les forçats agenouillés, puis les réflexions banales qui ne changent rien au régime des bagnes où grouillent 18 000 crimes. « Il faut réintégrer Asiologie, » dit Carlos. Asie s'avança, ne comprenant rien à la pantomime d'Europe. « Pour la faire revenir cuisinière ici, vous commencerez par servir au baron un dîner comme il n'en aura jamais mangé, » reprit-il. « Puis vous lui direz qu'Asie a perdu son argent au jeu et s'est remise en maison. Nous n'aurons pas besoin de chasseurs. Paccard sera cocher. Les cochers ne quittent pas leur siège où ils ne sont guère accessibles. L'espionnage l'atteindra moins là. Madame lui fera porter une perruque poudrée, un tricorne, en gros feutre galonné. Ça le changera. Je le grimerai d'ailleurs. Nous allons avoir des domestiques avec nous, dit Asie en louchant. Nous aurons d'honnêtes gens, répondit Carlos. Tous têtes faibles, répliqua la mulâtresse. Si le baron loue un hôtel, Paccard a un ami capable d'être concierge, reprit Carlos. Il ne nous faudra plus qu'un valet de pied et une fille de cuisine. Vous pourrez bien surveiller deux étrangers. Au moment où Carlos allait sortir, Paccard se montra. Restez, il y a du monde dans la rue, dit le chasseur. Ce mot si simple fut effrayant. Carlos monta dans la chambre d'Europe et y resta jusqu'à ce que Paccard fut venu le chercher avec une voiture de louage qui entra dans la maison. Carlos baissa les stores et fut mené d'un train à déconcerter toute espèce de poursuite. Arrivé au faubourg Saint-Antoine, il se fit descendre à quelques pas d'une place de fiacre où il se rendit à pied et rentra quai mal à quai en échappant ainsi aux curieux. « Tiens, enfant, dit-il à Lucien, en lui montrant 400 billets de 1000 francs. Voici, j'espère, un acompte sur le prix de la terre de Rubempré. Nous allons en risquer 100 000. On vient de lancer les omnibus. Les Parisiens vont se prendre à cette nouveauté-là. Dans 3 mois, nous triplerons nos fonds. Je connais l'affaire. On donnera des dividendes superbes pris sur le capital pour faire mousser les actions. Une idée renouvelée de Nucingen. En refaisant la terre de Rubempré, nous ne paierons pas tout sur le champ. Tu vas aller trouver des lupeaux, et tu le prieras de te recommander lui-même à un avoué nommé Desroches, un drôle futé que tu iras voir à son étude. Tu lui diras d'aller à Rubempré, d'étudier le terrain, et tu lui promettras 20 000 francs d'honoraires. S'il peut, en t'achetant pour 800 000 francs de terre autour des ruines du château, te constituer 30 000 livres de rente. Comme tu vas, tu vas, tu vas. Je vais toujours. Ne plaisantons point. Tu t'en iras mettre 100 000 écus en bons du trésor, afin de ne pas perdre d'intérêt. Tu peux les laisser à Desroches. Il est aussi honnête homme que Madré. Cela fait, cours à Angoulême. Obtiens de ta sœur et de ton beau-frère qu'ils prennent sur eux un petit mensonge officieux. Tes parents peuvent dire t'avoir donné 600 000 francs pour faciliter ton mariage avec Clotilde de Grandlieu. Ça n'est pas déshonorant. Nous sommes sauvés, s'écria Lucien ébloui. Toi, oui, reprit Carlos, mais encore ne le seras-tu qu'en sortant de Saint-Thomas d'Aquin avec Clotilde pour femme. Que crains-tu ? Dit Lucien, en apparence plein d'intérêt pour son conseiller. Il y a des curieux à ma piste. Il faut que j'aie l'air d'un vrai prêtre, et c'est bien ennuyeux. Le diable ne me protégera plus en me voyant un bréviaire sous le bras. En ce moment, le baron de Nucingen, qui s'en alla donnant le bras à son caissier, atteignait la porte de son hôtel. « J'ai bien peur, dit-il en rentrant. Ta farfait est un fichu campagne. Bah, nous rattraperons ça. Le malheur est que monsieur le baron s'est affiché. » répondit le bon allemand, en ne s'occupant que du décorum. « Oui, ma maîtresse en titre doit être dans une position digne de moi, » répondit ce Louis XIV de comptoir. Sûr d'avoir tôt ou tard Esther, le baron redevint le grand financier qu'il était. Il reprit si bien la direction de ses affaires que son caissier, en le trouvant le lendemain à 6 heures dans son cabinet, vérifiant des valeurs, se frotta les mains. Décidément, monsieur le baron a fait une économie de la nuit dernière, dit-il avec un sourire d'allemand, moitié fin, moitié niais. Si les gens riches à la manière du baron de Nucingen ont plus d'occasion que les autres de perdre de l'argent, ils ont aussi plus d'occasion d'en gagner, alors même qu'ils se livrent à leur folie. Quoique la politique financière de la fameuse maison Nucingen se trouve expliqué ailleurs, il n'est pas inutile de faire observer que de si considérables fortunes ne s'acquièrent point, ne se constituent point, ne s'agrandissent point, ne se conservent point, au milieu des révolutions commerciales, politiques et industrielles de notre époque, sans qu'il y ait d'immenses pertes de capitaux, ou si vous voulez, des impositions frappées sur les fortunes particulières. On verse très peu de nouvelles valeurs dans le trésor commun du globe. Tout accaparement nouveau représente une nouvelle inégalité dans la répartition générale. Ce que l'État demande, il le rend. Mais ce qu'une maison du Singen prend, elle le garde. Ce coup de Jarnac échappe aux lois, par la raison qu'eût fait de Frédéric II un Jacques Collin, un mandrin, si au lieu d'opérer sur les provinces à coups de bataille, il eût travaillé dans la contrebande ou sur les valeurs mobilières. Forcer les États européens à emprunter à 10 ou 20%, gagner ces 10 ou 20% avec les capitaux du public, rançonner en grand les industries en s'emparant des matières premières, tendre aux fondateurs d'une affaire une corde pour le soutenir hors de l'eau jusqu'à ce qu'on ait repêché son entreprise asphyxiée. Enfin, toutes ces batailles d'écus gagnées constituent la haute politique de l'argent. Certes, il s'y rencontre pour le banquier comme pour le conquérant des risques, mais il y a si peu de gens en position de livrer de tels combats que les moutons n'ont rien à y voir. Ces grandes choses se passent entre bergers. Aussi, comme les exécutés, le terme consacré dans l'argot de la bourse, sont coupables d'avoir voulu trop gagner, prend-on généralement très peu de part aux malheurs causés par les combinaisons des Nucingen. Qu'un spéculateur se brûle la cervelle, qu'un agent de change prenne la fuite, qu'un notaire emporte les fortunes de 100 ménages, ce qui est pis que de tuer un homme, qu'un banquier liquide. Toutes ces catastrophes, oubliées à Paris en quelques mois, sont bientôt couvertes par l'agitation quasi marine de cette grande cité. Les fortunes colossales des Jacques Coeur, des Médicis, des Angot de Dieppe, des Offredi de La Rochelle, des Fugères, des Tiepolo, des Corner, furent jadis loyalement conquises par des privilèges dus à l'ignorance où l'on était des provenances de toutes les denrées précieuses. Mais aujourd'hui, les clartés géographiques ont si bien pénétré les masses, la concurrence a si bien limité les profits, que toute fortune rapidement faite, et ou l'effet du hasard, ou d'une découverte, ou le résultat d'un vol légal. Perverti par de scandaleux exemples, le bas commerce a répondu, surtout depuis 10 ans, à la perfidie des conceptions du haut commerce, par des attentats odieux sur les matières premières. Partout où la chimie est pratiquée, on ne boit plus de vin. Aussi l'industrie vinicole succombe-t-elle. On vend du sel falsifié pour échapper au fisc. Les tribunaux sont effrayés de cette improbité générale. Enfin, le commerce français est en suspicion devant le monde entier, et l'Angleterre se démoralise également. Le mal vient chez nous de la loi politique. La charte a proclamé le règne de l'argent. Le succès devient alors la raison suprême d'une époque athée. Aussi, la corruption des sphères élevées, malgré des résultats éblouissants d'or et leurs raisons spécieuses, est-elle infiniment plus hideuse que les corruptions ignobles et quasi personnelles des sphères inférieures, dont quelques détails servent de comique, terrible si vous voulez, à cette scène. Le gouvernement, que toute pensée neuve effraie, a banni du théâtre les éléments du comique actuel. La bourgeoisie, moins libérale que Louis XIV, tremble de voir venir son mariage de Figaro, défend de jouer le Tartuffe politique, et certes, ne laisserait pas jouer Turcarrette aujourd'hui, car Turcarrette est devenu le souverain. Dès lors, la comédie se raconte, et le livre devient l'arme moins rapide, mais plus sûre, des poètes. Durant cette matinée, au milieu des allées et venues des audiences, des ordres donnés, des conférences de quelques minutes, qui font du cabinet de Nucingen une espèce de salle des pas perdus financière, un de ses agents de change lui annonça la disparition d'un membre de la compagnie, un des plus habiles, un des plus riches, Jacques Fallet, frère de Martin Fallet, et le successeur de Jules Desmarets. Jacques Fallet et de l'agent de change en titre de la maison du Singen. De concert avec Dutillet et les Keller, le baron avait aussi froidement conjuré la ruine de cet homme que s'il se fût agi de tuer un mouton pour la Pâque. « Il ne pouvait pas tenir, » répondit tranquillement le baron. Jacques Fallet avait rendu d'énormes services à l'agiotage. Dans une crise quelques mois auparavant, il avait sauvé la place en manœuvrant avec audace. Mais demander de la reconnaissance au loup-cervier, n'est-ce pas vouloir attendrir en hiver les loups de l'Ukraine ?« Pauvre homme, » répondit l'agent de change, « il se doutait si peu de ce dénouement-là qu'il avait meublé rue Saint-Georges une petite maison pour sa maîtresse. Il y a dépensé 150 000 francs en peinture, en mobilier. Il aimait tant Madame du Val-Noble. Voilà une femme obligée de quitter tout cela. Tout y est dû. Pompon, se dit Nucingen, voilà bien le gars de Rébarré, mais berde de cette nuit. Il n'y a rien de payé ? Demanda-t-il à l'agent de change. Eh, répondit l'agent, quel est le fournisseur mal appris qui n'eût pas fait crédit à Jacques Fallet ? Il paraît qu'il y a une cave exquise. Par parenthèse, la maison est à vendre, il comptait l'acheter. Le bail est à son nom. Quelle sottise ! Argenterie, mobilier, vin, voiture, chevaux, tout va devenir une valeur de la masse. Et qu'est-ce que les créanciers en auront ? « Venez demain, » dit Nucingen. « J'aurais été voir tout cela. Et si l'on ne déclare point de faillite, qu'on arrange les affaires à l'amiable. Je vous chercherai d'offrir un prix raisonnable de ce mobilier, en brûlant le paille. »« Ça pourra se faire très bien, » dit l'agent de change. « Allez-y ce matin. Vous trouverez l'un des associés de Fallet avec les fournisseurs qui voudraient se créer un privilège. » Mais la Val-Noble a leurs factures au nom de Fallet. Le baron de Nucingen envoya sur le champ un de ses commis chez son notaire. Jacques Fallet lui avait parlé de cette maison, qui valait tout au plus 60 000 francs, et il voulut être immédiatement propriétaire, afin d'en exercer le privilège à raison des loyers. Le caissier, honnête homme, vint savoir si son maître perdait quelque chose à la faillite de Fallet. Au contraire, mon bon Wolfgang, je vais rattraper 100 000 francs. Et comment ? Eh, j'aurai la petite maison que ce pauvre diable de Fallet préparait à sa maîtresse depuis un an. J'aurai le doute en offrant 5 000 francs aux créanciers. Et maître Gartot, mon odaire, va avoir des ordres pour la maison, car le propriétaire est chaîné. Je le savais, mais je n'avais plus la tête à moi. Tant peu. Ma tiffine Esther habitera un petit balai. Fallait m'y amener. C'était une merveille, et à 2 pas d'ici, ça me fa comme un gant. La faillite de Fallet forçait le baron d'aller à la bourse, mais il lui fut impossible de quitter la rue Saint-Lazare sans passer par la rue Thébault. Il souffrait déjà d'être resté quelques heures sans Esther. Il aurait voulu la garder à ses côtés. Le gain qu'il comptait faire avec les dépouilles de son agent de change lui rendait la perte des 400 000 francs déjà dépensés excessivement légère à porter. Enchanté d'annoncer à son ange sa translation de la rue Thébault à la rue Saint-Georges, où elle serait dans une petite vallée, où des souvenirs ne s'opposeraient plus à son bonheur, les pavés lui semblaient doux aux pieds. Il marchait en jeune homme, dans un rêve de jeune homme. Au détour de la rue des Trois Frères, au milieu de son rêve et du pavé, le baron vit venir à lui Europe, la figure renversée. « Où vas-tu » dit-il. « Eh, monsieur, j'allais chez vous. Vous aviez bien raison hier. Je conçois maintenant que la pauvre madame devait se laisser mettre en prison pour quelques jours. Mais les femmes se connaissent-elles en finance ? Quand les créanciers de madame ont su qu'elle était revenue chez elle, tous ont fondu sur nous, comme sur une proie. Hier, à 7 heures, monsieur, on est venu apposer d'affreuses affiches pour vendre son mobilier samedi. Mais ceci n'est rien. Madame, qui est tout cœur, a voulu dans le temps obliger ce monstre d'homme, vous savez. Quel monstre ? Eh bien, celui qu'elle aimait, ce d'Estourny. Oh, il était charmant. Il jouait, voilà tout. Il jouait avec des gardes pissotés. Eh bien, et vous, dit Europe, que faites-vous à la bourse? Mais laissez-moi dire. Un jour, pour empêcher Georges, soi-disant, de se brûler la cervelle, elle a mis au monde de piété toute son argenterie, ses bijoux qui n'étaient pas payés. En apprenant qu'elle avait donné quelque chose à un créancier, tous sont venus lui faire une scène. On la menace de la correctionnelle. Votre ange, sur ce banc-là, n'est-ce pas à faire dresser une perruque de dessus la tête? Elles font en larmes. Elles parlent d'aller se jeter à la rivière. Oh, elle ira. Si je fais vous voir, as-tu la bourse? S'écria Nucingen. Et il est impossible que je n'y aille pas, car j'y gagnerai quelque chose pour elle. Fais-la galmer. Je paierai ses têtes. J'irai la foire à 4 heures. Mais si je nie, dis-lui qu'elle m'aime un peu. Comment un peu? Mais beaucoup. Tenez, monsieur, il n'y a que la générosité pour gagner le cœur des femmes. Certainement, vous auriez économisé peut-être 100 000 francs en la laissant aller en prison. Eh bien, vous n'auriez jamais eu son cœur. Comme elle me le disait, Eugénie, il a été bien grand, bien large. C'est une belle âme. Elle a dit ça, Eugénie, s'écria le baron. Oui, monsieur, à moi-même. Tiens, voici qui louit. Merci. Mais elle pleure en ce moment. Elle pleure depuis hier, autant que Sainte Madeleine a pleuré pendant un mois. Celle que vous aimez est au désespoir, et pour des dettes qui ne sont pas les siennes encore. Oh, les hommes, ils grugent autant les femmes que les femmes grugent les vieux. Allez, elles sont toutes comme ça, s'engager. Eh, l'on ne s'engage jamais. Qu'elles ne signent plus rien. Je baille. Mais si elle donne encore une signature, je... Que feriez-vous? Dit Europe en se posant. Mon Dieu, je n'ai aucun pouvoir sur elle. Je fais me mettre à la tête de ses petites affaires. Fa la consoler et lui dire que dans 5 mois, elle habitera un petit balai. Vous avez fait, monsieur le baron, des placements à gros intérêt dans le cœur d'une femme. Tenez. Je vous trouve rajeunie, moi qui ne suis que la femme de chambre, et j'ai souvent vu ce phénomène. C'est le bonheur. Le bonheur a un certain reflet. Si vous avez quelques débours, ne les regrettez pas. Vous verrez ce que ça rapporte. D'abord, je l'ai dit à madame, elle serait la dernière des dernières, une traînée, si elle ne vous aimait pas, car vous la retirez d'un enfer. Une fois qu'elle n'aura plus de soucis, vous la connaîtrez. Entre nous, je puis vous l'avouer, la nuit où elle pleurait tant, que voulez-vous? On tient à l'estime d'un homme qui va nous entretenir. Elle n'osait pas vous dire tout cela. Elle voulait se sauver. Se sauver! S'écria le baron, effrayé de cette idée. Mais la bourse! Fafa, je n'entre point. Mais que je la voie à la fenêtre. Sa fume teintera du cœur. Esther sourit à monsieur de Nucingen quand il passa devant la maison, et il s'en alla pesamment en se disant « C'est un ange !» Voici comment s'y était prise Europe pour obtenir ce résultat impossible. Vers 2h30, Esther avait fini de s'habiller comme quand elle attendait Lucien. Elle était délicieuse. En la voyant ainsi, Prudence lui dit en regardant à la fenêtre « Voilà monsieur !» La pauvre fille se précipita, croyant voir Lucien et vit Nucingen. « Oh, quel mal tu me fais !» dit-elle. « Il n'y avait que ce moyen-là de vous donner l'air de faire attention à un pauvre vieillard qui va payer vos dettes, » répondit Europe. « Car enfin, elles vont être toutes payées. »« Quelle dette !» s'écria cette créature qui ne pensait qu'à retenir son amour, à qui des mains terribles donnaient la volée. Celle que monsieur Carlos a faite à madame. « Comment? Voici près de 400 000 francs !» s'écria Esther. « Vous en avez encore pour 150 000 francs. Mais il a très bien pris tout cela, le baron. Il va vous tirer d'ici, vous mettre dans un petit palais. Ma foi, vous n'êtes pas malheureuse. À votre place, puisque vous tenez cet homme-là par le bon bout, quand vous aurez satisfait Carlos, je me ferai donner une maison et des rentes. Madame est certes la plus belle femme que j'ai vue, et la plus engageante, mais la laideur vient si vite. J'ai été fraîche et belle, et me voilà. J'ai 23 ans, presque l'âge de madame, et je parais 10 ans de plus. Une maladie suffit. Eh bien, quand on a une maison à Paris et des rentes, on ne craint pas de finir dans la rue. Esther n'écoutait plus Europe, Eugénie, Prudence Servien. La volonté d'un homme doué du génie de la corruption avait donc replongé dans la boue Esther avec la même force dont il avait usé pour l'en retirer. Ceux qui connaissent l'amour dans son infini savent qu'on n'en éprouve pas les plaisirs sans en accepter les vertus. Depuis la scène dans son taudis rue de Langlade, Esther avait complètement oublié son ancienne vie. Elle avait jusqu'alors vécu très vertueusement, cloîtrée dans sa passion. Aussi, pour ne pas rencontrer d'obstacles, le savant corrupteur avait-il le talent de tout préparer, de manière que la pauvre fille, poussée par son dévouement, n'eut plus qu'à donner son consentement à des friponneries consommées, ou sur le point de se consommer. En révélant la supériorité de ce corrupteur, cette finesse indique le procédé par lequel il avait soumis Lucien. Créer des nécessités terribles, creuser la mine, la remplir de poudre, et au moment critique, dire au complice « Fais un signe de tête, tout saute !» Autrefois Esther, imbue de la morale particulière aux courtisanes, trouvait toutes ces gentillesses si naturelles qu'elle n'estimait une de ses rivales que parce qu'elle savait faire dépenser à un homme. Les fortunes détruites sont les chevrons de ces créatures. Carlos, en comptant sur les souvenirs d'Esther, ne s'était pas trompé. Ses ruses de guerre, ses stratagèmes mille fois employés, non seulement par ses femmes, mais encore par les dissipateurs, ne troublaient pas l'esprit d'Esther. La pauvre fille ne sentait que sa dégradation. Elle aimait Lucien. Elle devenait la maîtresse en titre du baron de Nucingen. Tout était là pour elle. Que le faux espagnol prît l'argent des arts, que Lucien éleva l'édifice de sa fortune avec les pierres du tombeau d'Esther, qu'une seule nuit de plaisir coûta plus ou moins de billets de 1 000 francs au vieux banquier, qu'Europe en extirpa quelques centaines de 1 000 francs par des moyens plus ou moins ingénieux. Rien de tout cela n'occupait cette fille amoureuse. Mais voici le cancer qui lui rongeait le cœur. Elle s'était vue pendant 5 ans, blanche comme un ange. Elle aimait, elle était heureuse, elle n'avait pas commis la moindre infidélité. Ce bel amour pur allait être sali. Son esprit n'opposait pas ce contraste de sa belle vie inconnue à son immonde vie future. Ceci n'était en elle ni calcul, ni poésie. Elle éprouvait un sentiment indéfinissable et d'une puissance infinie. De blanche, elle redevenait noire. De pure, impure. De noble, ignoble. Hermine, par sa propre volonté, la souillure morale ne lui semblait pas supportable. Aussi, lorsque le baron l'avait menacée de son amour, l'idée de se jeter par la fenêtre lui était-elle venue à l'esprit. Lucien, enfin, était aimé absolument, et comme il est extrêmement rare que les femmes aiment un homme. Les femmes qui disent aimer, qui souvent croient aimer le plus, dansent, valsent, coquettent avec d'autres hommes, se partent pour le monde, ils vont chercher leur moisson de regards convoiteurs. Mais Esther avait accompli sans qu'il y eût de sacrifice les miracles du véritable amour. Elle avait aimé Lucien pendant 6 ans, comme aiment les actrices et les courtisanes qui roulaient dans les fanges et les impuretés, ont soif des noblesses, des dévouements du véritable amour, et qui en pratiquent alors l'exclusivité. Ne faut-il pas faire un mot pour rendre une idée si peu mise en pratique? Les nations disparues, la Grèce, Rome et l'Orient qui ont toujours séquestré la femme qui aime, devrait se séquestrer d'elle-même. On peut donc concevoir qu'en sortant du palais fantastique où cette fête, ce poème s'était accompli, pour entrer dans le petit ballet d'un froid vieillard, Esther fut saisie d'une sorte de maladie morale. Poussée par une main de fer, elle avait eu de l'infamie jusqu'à mi-corps, avant d'avoir pu réfléchir. Mais depuis 2 jours, elle réfléchissait et se sentait un froid mortel au cœur. À ces mots, « finir dans la rue », elle se leva brusquement et dit « finir dans la rue ? Ah non, plutôt finir dans la Seine !»« Dans la Seine ? Et monsieur Lucien ?» dit Europe. Ce seul mot fit rasseoir Esther sur son fauteuil, où elle resta les yeux attachés à une rosace du tapis, le foyer du crâne absorbant les pleurs. À 4 heures, Nucingen trouva son ange plongé dans cet océan de réflexion, de résolution, sur lequel flottent les esprits femelles, et d'où ils sortent par des mots incompréhensibles pour ceux qui n'y ont pas navigué de conserve. « Territez votre front, ma belle !» lui dit le baron en s'asseyant auprès d'elle. « Vous n'aurez plus de tête. Je m'entendrai avec Eugénie. Et dans 1 mois, vous quitterez cet appartement pour entrer dans un petit palais. Oh, la jolie main ! Tenez que je l'apaise. » Esther laissa prendre sa main comme un chien donne la patte. « Ah, vous tenez la main, mais pas le cœur. Et c'est le cœur que j'aime. » Ce fut dit avec un accent si vrai que la pauvre Esther tourna ses yeux sur ses vieillards avec une expression de pitié qui le rendit quasi fou. Les amoureux, de même que les martyrs, se sentent frères de supplice. Rien au monde ne se comprend mieux que de douleurs semblables. « Pauvre homme, dit-elle, il aime. » En entendant ce mot sur lequel il se méprit, le baron pâlit. Son sang pétilla dans ses veines, il respirait l'air du ciel. À son âge, les millionnaires payent une semblable sensation autant d'or qu'une femme leur en demande. « Je vous aime autant que j'aime ma fille, » dit-il. « Et je sens là, » reprit-il en mettant la main sur son cœur, « que je ne peux pas vous voir autrement que heureuse. Si vous vouliez naître comme mon père, je vous aimerais bien. Je ne vous quitterai jamais, et vous vous apercevriez que je ne suis pas une femme mauvaise, ni vénale, ni intéressée, comme j'en ai l'air en ce moment. Vous avez fait des petites folies, reprit le baron, comme toutes les jolies femmes. Voilà tout. Ne parlons plus de cela. Notre métier, à nous, est de gagner de l'argent, pour vous. Soyez heureuse. Je veux bien être votre père. Pendant quelques jours, car je comprends, car il faut vous accoutumer à ma pauvre carcasse. Vrai, s'écria-t-elle, en se levant et sautant sur les genoux de Nucingen, lui passant la main autour du cou et se tenant à lui. Vrai, répondit-il, en essayant de faire sourire sa figure. Elle l'embrassa sur le front, elle crut à une transaction impossible, restée pure. Et voir Lucien. Elle câlina si bien le banquier que la torpille reparut. Elle ensorcela le vieillard, qui promit de rester père pendant 40 jours. Ces 40 jours étaient nécessaires à l'acquisition et à l'arrangement de la maison rue Saint-Georges. Une fois dans la rue, et en revenant chez lui, le baron se disait « Je suis un chobard !» En effet, s'il devenait enfant en présence d'Esther, loin d'elle, il reprenait en sortant sa peau de loup cervier, absolument comme le joueur redevient amoureux d'Angélique quand il n'a plus un liard. À une demi-million, et ne savoir pas encore si ce qu'est de sa chambre, c'est d'être par trop bête. Mais personne, russement, n'en saura rien, disait-il 20 jours après. Et il prenait de belles résolutions d'en finir avec une femme qu'il avait achetée si cher. Puis quand il se trouvait en présence d'Esther, il passait à réparer la brutalité de son début, tout le temps qu'il avait à lui donner. « Je ne peux pas, » lui disait-il au bout 1 mois, « être le père éternel. » Vers la fin du mois de décembre 1829, à la veille d'installer Esther dans le petit hôtel de la rue Saint-Georges, le baron pria du Tillet d'y amener Florine, afin de voir si tout était en harmonie avec la fortune de Nucingen, si ses mots, un petit balai, avait été réalisé par les artistes chargés de rendre cette volière digne de l'oiseau. Toutes les inventions trouvées par le luxe avant la révolution de 1830 faisaient de cette maison le type du bon goût. Grindot, l'architecte, y avait vu le chef-d'œuvre de son talent de décorateur. L'escalier refait en marbre, les stucs, les étoffes, les dorures sobrement appliquées, les moindres détails comme les grands effets, surpassaient tout ce que le siècle de Louis XV a laissé dans ce genre à Paris. Voilà mon rêve, ça est la vertu, dit Florine en souriant. Et pour qui fais-tu ces dépenses? Demanda-t-elle à Nucingen. Est-ce une vierge qui s'est laissée tomber du ciel? C'est une femme qui y remonte, répondit le baron.